tous les podcasts Détroit 8, radiogrenouille.com.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui les philosophes publics sont réunis pour parler de la démocratie. Il y a donc Monique, Louisa, Céline et moi-même Marc qui allons réfléchir sur ce concept et à la fois sur sa pratique, puisque l'aventure des philosophes publics est une aventure qui s'inscrit dans le cadre de cette idée de démocratie, mais aussi dans un contexte de crise peut-être de la démocratie dont on parle beaucoup. Donc nous allons essayer dans cette émission de croiser des approches théoriques et puis aussi des retours d'expérience sur ce que nous avons pu faire en termes de débat public depuis un an et demi, et de voir comment cette double approche théorique est vécue à irriguer nos réflexions. Donc je passe directement la parole à Céline qui va dire quelques mots.
Des petites questions pour commencer, ou peut-être un témoignage, je ne sais pas. Là, j'avais envie de parler de notre expérience du collectif des philosophes publics. On essaye de veiller à une dimension démocratique entre nous, et je crois que cette première dimension, c'est la reconnaissance de l'importance de l'altérité. Ça veut dire que finalement, que la démocratie, elle commence à partir du moment où il y a de la différence et des différends, et qu'on est du côté de la vie politique et non pas au contraire de l'échec. Et bon, c'est évidemment une expérience extrêmement modeste, nous faisons tous le même métier, donc la différence est relative, hein. Attention, je suis bien consciente de tout ça, mais en tout cas, ce dont je suis persuadée, c'est que sortir de soi, sortir de ses certitudes, et on essaye, hein, comme vous le savez, en essayant de faire des expériences de parole dans la rue, ou à chaque fois c'est un enrichissement considérable. Et donc je me dis que si la démocratie n'a pas lieu, nous perdons beaucoup, hein, dans une existence, et c'est parce que nous perdons beaucoup qu'il y a une urgence politique à la rendre possible. Alors elle a bien lieu, mais en tout cas, sans elle, nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes.
Louisa.
Moi, c'était l'expérience des philosophes publics. Là, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, et plusieurs choses. Mais par exemple, quelque chose d'assez évident, c'est que on a tendance à toujours rejeter et critiquer, et c'est normal, nos représentants politiques. Mais je crois que j'ai pris conscience plus qu'avant du fait que la démocratie, c'est nous, quoi. La démocratie, c'est le peuple, et que le peuple, du coup, il a un pouvoir qu'il peut faire entendre, et que ce pouvoir, il passe d'ailleurs essentiellement par la parole, et que cette parole, il faut aussi lui enlever le côté honte qu'il peut y avoir aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est très fort, mais dans tous les pays, je pense, parce que comme disait Céline, il y a pluralité, donc il y a conflit possible. Mais, et du coup, on ne parle pas de politique comme si c'était un sujet honteux, un peu comme la sexualité ou parfois comme la religion. Alors que justement, ce que m'apprend cette expérience, c'est que la politique est ce dont on parle et ce dont il faut parler pour que la démocratie ait réellement un sens vivant et qu'elle ne soit pas récupérée uniquement par un pouvoir qui, lui, aurait la parole.
Monique.
Oui, oui, oui. Moi, ce qui me semble très fort aujourd'hui, c'est combien l'idéal démocratique est porté haut par la société civile. C'est-à-dire qu'à la fois, l'actualité est très préoccupante. Et on voit tous ces populismes qui triomphent ici ou là, en Europe, aux États-Unis. Et en même temps, donc, la société civile multiplie les initiatives démocratiques, c'est-à-dire l'initiative qui consiste à faire vivre le débat, qui consiste à faire vivre la délibération sur des questions qui sont des questions politiques aujourd'hui.
Alors pour ma part, d'abord je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mes trois collègues. Il y a aussi, pour continuer sur ce travail sur les mots, aussi sur le langage, il me semble que ce qu'on a travaillé aussi, ce dont on a pris conscience, c'est à quel point le discours sur la société, le discours social, politique, était irrigué par des termes souvent mal définis ou volontairement mal définis, qui en fait avaient tendance à troubler les raisonnements, à troubler la pensée et à troubler la conscience que la société peut avoir d'elle-même. Parce qu'il me semble que, effectivement, comme tu disais, Monique, à l'instant, les philosophes publics participent quand même d'un mouvement plus large dans la société, de nécessité de construire des collectifs de citoyens, des collectifs de gens qui ne participent pas directement aux institutions politiques au sens classique, qui sont aussi des lieux de prise de conscience de la société par elle-même, y compris de prise de conscience d'ailleurs de ses contradictions, de sa complexité. Et à cet égard, c'est vrai que je voudrais embrayer sur le travail de Pierre-Rosan Vallon, par exemple, sur ses écrits, sur l'idée qu'effectivement, et on parlera aussi de Dominique Rousseau, de Van Reybrouck peut-être, tous ces penseurs aussi qui nous rappellent, mais je crois qu'en ces temps c'est nécessaire, qu'il ne suffit pas qu'il y ait élection pour qu'il y ait démocratie. Voilà, que la démocratie ne peut pas être, comme le dit Rosan Vallon, simplement un exercice d'autorisation à gouverner, la démocratie d'autorisation, je vote tous les 5 ans pour quelqu'un que j'autorise à gouverner en mon nom, mais qu'elle doit être une démocratie d'exercice. Et les philosophes publics, me semble-t-il, participent de ce mouvement, comme tu disais Céline, hein, modestement, à notre petite échelle, mais à la fois dans le travail que nous faisons entre nous et le travail surtout que nous faisons sur la place publique, à ce travail de démocratie d'exercice, c'est-à-dire de remettre en question, de remettre en débat, et aussi peut-être d'oser, comme tu disais Louisa, d'oser parler politique, et oser aussi parler politique en dépassant les clivages partisans qui peuvent être figés, puisque notre but c'est justement d'essayer de parler à tout le monde, ce qui est très compliqué.
Et donc cette expérience de parler à tout le monde, ce qui à mon avis doit être dit, c'est que finalement la parole elle est immédiatement. Alors immédiatement ça veut pas dire spontanément, mais en tout cas le désir de parler politique, alors peut-être aussi parce que à ce moment-là, nous ne nous connaissons pas dans la rue quand nous parlons, donc on reçoit sans doute des paroles qui peuvent se dire à nous et peut-être pas ailleurs, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, y a une parole au sens politique très forte, c'est-à-dire une conscience de l'autre, une conscience de créer un monde qui ne représente pas qu'une catégorie de la population, un monde dans lequel les enfants peuvent grandir, dans lequel aussi on peut faire autre chose que simplement courir après un travail et pour le dire un peu rapidement, un monde plein d'humanité. Donc en fait, à chaque fois, ce sont des expériences qui donnent envie de mener une vie dans la cité et puis aussi dans le monde. Donc ces paroles, elles sont là. Et à partir de là, quand même, même si c'est nous, comme l'a dit Louisa, la démocratie, on ressent quand même un écart inacceptable ou insupportable entre toutes ces paroles qui proposent la possibilité d'un monde de façon à la fois idéaliste, mais en se posant la question des conditions de possibilité. Comment faire pour vivre ensemble? Et peut-être, je crois, le mépris, le mépris de ces paroles-là, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus entendues. Alors chacun peut mettre sa rupture un peu quand il veut, mais moi il me semble que les grandes manifestations contre les retraites, etc., elles ne sont pas entendues, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas reconnues, c'est pas forcément, mais elles ne sont pas portées à l'idée qu'elles sont rationnelles, qu'elles proposent un monde. Et c'est donc cet écart entre une expérience de la parole, qui est une expérience, et l'inaudibilité de ces paroles-là.
Non, pour aller dans ton sens, c'est ce qui me semble très important aussi, c'est de montrer qu'il y a une intelligence collective et une intelligence qui peut se construire dans le débat et dans l'écoute, et qui ce rapport à la parole et à la rationalité qui déconstruise la rationalité du pouvoir dominant qui a une parole et qui impose une parole comme étant la seule vérité. Je veux dire que ça c'est quelque chose d'extrêmement démocratique et d'extrêmement important, hein, et de se rendre compte, ce que j'aime aussi dans ce qu'on fait, c'est que tout d'un coup j'ai l'impression que parfois les gens se rendent compte qu'ils ont une intelligence et qu'il y a une intelligence qui existe, mais qu'on ne met pas habituellement en valeur parce que ça ne sert pas justement le pouvoir.
Oui, et même moi je voudrais ajouter au-delà que le débat est constitutif de ce qu'on a nommé depuis le début un peuple. C'est-à-dire que souvent on met en question la démocratie en disant que finalement le peuple est une entité vide, c'est un mot vide de sens. Parce que le peuple est irrationnel, parce que le peuple est ignorant, parce que le peuple n'existe pas comme peuple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais affaire qu'à un agrégat d'individus. Et là, dans le débat, ce qui s'auto-institue en quelque sorte, c'est justement le peuple, à savoir nous faisons exister par le débat une communauté politique. Et hors de ce débat, justement, cette communauté politique n'existe pas. D'où, la place fondamentale du débat en démocratie, car qu'est-ce qu'une démocratie, justement, sans débat, qui se limiterait à l'exercice de l'élection, à l'exercice du vote, hein, c'est vraisemblablement une démocratie vide.
Ce qu'on a constaté aussi, par exemple, dans l'expérience des roues. Alors les roues, c'est d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler pour les auditeurs, c'est que tous les premiers dimanches du mois, tous les derniers dimanches du mois, nous sommes en haut de la Canebière pour discuter avec les gens qui passent. Donc nous avons tourné des roues et il y a des petites tables. Et à chaque table, il y a au moins deux professeurs de philosophie, membres des philosophes publics, pour dialoguer. Ça fait déjà pas mal de fois qu'on met en œuvre ce processus. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai retrouvé aussi, de manière comme ça, empirique et vécue, des concepts qu'on trouve chez Rosan Vallon, comme la démocratie narrative, par exemple. Cette idée que les citoyens auraient aujourd'hui conscience que la société serait devenue plus difficilement lisible, que les parcours sont fortement individualisés, c'est lié aussi à l'évolution du monde du travail depuis les années 80, que les grands corps constitués, qui étaient les partis et les syndicats, peinent visiblement à représenter la réalité de manière adéquate, que justement il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sentent pas du tout représentés, ni par les partis, ce que tu disais tout à l'heure, hein, et que d'abord il y a souvent cette volonté de se dire, de raconter son parcours en fait, quand les gens prennent la parole, et qu'à partir de ces récits croisés, on peut bâtir une forme de conceptualisation, une forme d'intelligibilité de la société qui dépasse justement les catégories figées dont on a pu hériter d'une société qui est un peu ancienne. Et ça, on le retrouve aussi, alors on l'a retrouvé dans les débats publics qu'on a pu faire dans des bars. Cette idée comme ça d'une société à la recherche d'elle-même. Et la démocratie, c'est sans doute ça, parce que la démocratie, bon, c'est un bien grand mot, mais comme disait Rousseau, au sens strict, il n'a jamais existé, il n'existe pas, il n'existera jamais de démocratie. La démocratie, elle se cherche tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle se cherche peut-être au moins autant dans des lieux informels comme ceux qu'on propose, et encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, que dans des formes plus instituées, qui sont par exemple les partis politiques, qui, de fait, étant devenus des machines à prendre le pouvoir et à le conserver, ont peut-être, enfin c'est en tout cas l'analyse de pas mal de politologues, ont peut-être perdu cette idée de représentation, au sens de représentation-figuration, hein, comment on figure la société, comment on la rend présente à elle-même, comment on la rend pensable à elle-même.
Oui, ou même si on pense à certains territoires, hein, qui sont effectivement plus du tout représentés, c'est comme si la représentation aujourd'hui, en tout cas en France, dans le mot représentation, le « re » avait tout grignoté, avait envahi le concept. C'est-à-dire qu'à un moment, représenter, c'est aussi présenter, et on ne peut pas faire l'économie d'une confrontation présentielle. Enfin, je sais pas, ça rejoint peut-être à ce qu'on a voulu dire sur les prisons, mais il y a un moment où la parole, elle doit être aux travailleurs, elle doit être aux détenus, non pas parce qu'elle aurait une valeur je sais pas, supplémentaire, mais parce que on ne peut pas faire sans ces paroles-là. C'est impossible. Sinon, on fait avec des généralisations, avec des constructions, mais du coup, ce qu'on, enfin, sous prétexte d'une démocratie, on l'empêche en fait. Si il n'y a pas un droit à la parole, une égalité dans la parole, ou en tout cas dans le droit à exister par la parole.
C'est vrai que ça pose, comme disait Marc aussi, on ne peut pas évacuer la question des institutions, hein, quelque part. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, on est quand même dans une république qui a des institutions. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs penseurs, il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont ouvertes sur comment faire intervenir cette parole dont on parle, cette narration des différents vécus, cette société civile dans quelque chose qui soit quand même un petit peu institué. Bon, j'ai pas de réponse, mais c'est vrai que forcément il est nécessaire de penser ce rapport-là. Et donc, il y a des pistes, donc sans doute Rose en Vallon. Il y a un philosophe, un professeur de droit constitutionnel qui s'appelle Dominique Rousseau, qui a écrit un livre qui s'appelle « Radicaliser la démocratie », où il ouvre certaines pistes. Hein. Sans doute, il y en a beaucoup d'autres. Donc, par exemple, l'idée de la création d'une assemblée sociale délibérative, où il y aurait justement, non pas des partis politiques, mais des représentants de la société civile dans une assemblée sociale, par exemple. Voilà, enfin, il y a plusieurs choses possibles. En tout cas, on ne peut pas évacuer, je pense, de nos jours, une réflexion sur ça.
Je rebondis en un mot sur ce que dit Aminata Traoré, donc, qui était ministre de la Culture au Mali et qui a démissionné, puisque pour elle, il était impossible de pratiquer une politique dans le gouvernement malien. Quand elle était dans ce gouvernement, et elle disait qu'en fait, elle serait favorable à des citoyens du monde qui viendraient, hein, qui seraient peut-être mis en disponibilité, donc payés pendant 6 mois, pour contrôler, pour veiller, hein, plutôt que surveiller, mais pour veiller au respect du droit international. Donc on retrouve finalement ce problème de la démocratie à l'échelle locale, mais jusqu'à la question d'un monde.
Ouais, c'est une double question, c'est-à-dire la question politique, il me semble qu'elle est par excellence la question du pouvoir. Et donc cette question du pouvoir, elle s'articule au droit à partir de cette question, comment réaliser effectivement ce que dit le droit, c'est-à-dire pouvoir réaliser. Hein, ce que dit le droit, ça serait l'œuvre du politique. Et puis la question du pouvoir des citoyens aussi, dont Louisa parlait en amont, à savoir construire des instances de délibération, c'est-à-dire donner pouvoir aux citoyens de délibérer, ce n'est pas encore leur donner le pouvoir politique, à savoir le pouvoir d'agir. Donc il me semble que la question de la démocratie, c'est la question de ce que nous pouvons effectivement faire pour changer la société et la rendre plus juste.
Oui, surtout qu'en France, nous sommes quand même habitués à une conception du pouvoir très, très verticale, avec une prédominante de l'exécutif qui a été liée notamment d'abord à l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel, ce qui a été une invention française, hein, et puis avec le quinquennat qui a encore rajouté ça. Et on constate peut-être aussi parfois une dépolitisation des citoyens, c'est-à-dire que peut-être que les citoyens ont perdu un peu l'habitude de dialoguer. C'est par exemple une thèse qui est défendue par une membre des philosophes publics dans une série qui s'appelle « La démocratie au champ » de Joël Zas, qui dit que finalement la conception jacobine et centralisatrice du pouvoir a aussi mis fin à un très grand nombre d'expérimentations démocratiques, notamment dans la démocratie paysanne, parce que c'est un livre sur les jardins partagés. Et ce qui est assez compliqué aujourd'hui, c'est de retrouver aussi ce sens de la participation. Je veux en prendre deux exemples, un qui est lié au philosophe public, un qui est lié au juré d'assises, par exemple. Puisque les jurés d'assises, c'est un bon exemple justement de quelque chose qui fait confiance conscience aux citoyens, puis c'est par tirage au sort, et qui dit, bah, voilà, tout le monde peut participer, tout le monde peut prendre une décision, et là on est dans la décision. Or, dans les jurés d'assises, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la représentativité n'est pas aussi bonne que ce qu'elle devrait être. Parce que les gens qui sont, par exemple, très tout en haut de l'échelle sociale, au niveau des salaires, au niveau des revenus, se débrouillent souvent pour ne pas aller aux jurés d'assises, parce qu'on a le droit de refuser si on a des engagements de tout ça. Donc, je tiens tout ça d'études de magistrats qui ont été faites. Donc, en haut, on perd du monde. Et en bas, les gens qui sont dans la grande précarité, etc., souvent aussi arrivent à se soustraire à cette obligation parce qu'ils ont d'autres urgences. Et en réalité, dans les jurés d'assises aujourd'hui, on retrouve une très forte représentation des classes moyennes, des fonctionnaires, en fait. Et dans toutes les tentatives de démocratie participative, on l'a vu aussi dans ce village de la Drôme, etc., il y a aussi une non-représentativité qui fait qu'en fait, assez vite, on se retrouve avec des gens qui ont l'habitude de prendre la parole, etc. Donc il y a un effet qui est compliqué ici. Et en fait, la question, c'est ça, c'est comment arriver à redonner goût à cette participation, à ce débat, etc. Des gens qui, soit ne se sentent pas légitimes, soit ont été écartés depuis tellement longtemps de toute forme de participation qu'ils n'en ont plus peut-être vraiment l'envie. Et comme disait Thucydide, bon, il faut choisir se reposer ou être libre, disait Thucydide. Et comme notre société est un peu habituée comme ça à cette conception verticale du pouvoir, peut-être qu'il faudrait aussi faire renaître ce goût de la participation chez tous.
Mais je marque à la fois, je sais pas, à la fois peut-être je suis pas totalement sur cette lecture-là, dans le sens où il me semble que peut-être qu'il y a un écartement de la façon de faire politique classique, hein, de certaines parties de la population, ou de certains individus plus simplement, mais que cet écartement, si on l'écoute bien, il peut se faire au bénéfice d'une pensée nouvelle, d'une façon d'être politique. Et cette façon nouvelle, moi, il me semble qu'elle n'est jamais reprise. Vraiment parce que ce serait accepté de remettre en chantier, pas de défaire, c'est impossible, enfin, mais de remettre en chantier les normes du politique.
Et, tout à fait, et je pense que, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que tu poses l'idée de d'abord avoir envie d'être libre, mais je pense qu'il faut d'abord donner les conditions d'être libre, et une fois qu'on a un pouvoir, on apprend à être libre.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que, voilà, je pense que si on donne...
Non, mais je suis d'accord. Est-ce voilà, que redonner le goût, c'est en faisant qu'on a envie de faire.
Évidemment, avec certaines, il y a certaines conditions institutionnelles, certaines obligations qui devraient exister et qui font que, par exemple, comme tu dis, tout le monde doit participer. Il faut qu'il y ait, voilà, je sais pas, il faut pas qu'il y ait des risques de manipulation de la parole, etc., etc. Mais une fois qu'il y a certaines conditions, il y a quelque chose qui se crée dans une dynamique et je crois que je rajoute une idée qui me vient aussi à l'esprit, c'est que ce que je remarque aussi qui va contre ce mouvement démocratique qui est pourtant désiré, et je pense, je suis d'accord avec Céline, il y a vraiment un vrai désir dans la société de reprendre la démocratie en main, mais en même temps il y a aussi un énorme fatalisme que je vois et que j'entends autour de moi. Et il faut aussi pointer cette incohérence, hein, c'est-à-dire qu'on veut à la fois avoir plus de pouvoir, mais en fait on a en même temps l'idée que tout est déjà joué, que c'est toujours les plus forts qui gagnent, etc. Donc il faut arriver, je pense que notre rôle aussi, pour moi, je me sens un peu dans cette idée qu'il faut montrer que le fatalisme n'est qu'une idéologie, n'est qu'une croyance, en fait. Voilà.
Oui, enfin, je suis bien d'accord avec cette idée que nous restons quand même très politiques, c'est-à-dire les sujets politiques sont quand même encore les sujets sur lesquels nous nous disputons le plus. Et donc, si nous nous refusons à parler politique, c'est souvent parce que c'est un sujet brûlant. Mais ensuite, peut-être pour la démocratie, il me semble que les penseurs de la démocratie ont tous essayé de penser les conditions sociales de l'émergence du débat politique. Et les conditions sociales de l'émergence du débat politique, elles sont du côté de l'éducation. à savoir une éducation qui favorise la possibilité justement de s'inscrire dans un débat, une éducation qui favorise la possibilité de prendre confiance, tu disais, ne pas avoir un sentiment d'indignité culturelle lorsque l'on prend la parole, autrement dit, qui favorise la possibilité donc justement d'avoir confiance en soi pour s'inscrire en confiance dans un débat, donc sur des questions qui nous concernent tous, sur des questions politiques. Donc c'est le rôle de l'éducation comme condition de possibilité de la démocratie me semble tout à fait important à relever.
Tout à fait, Monique. Et peut-être aussi, du coup, je me disais que la démocratie, ce qui est fondamental, c'est le pouvoir, enfin, et le contre-pouvoir. Et qu'il y a quand même tous ces lieux de contre-pouvoir qui existent de façon certaine. Enfin, il y a des luttes et des gens comme ça qui persévèrent dans des luttes au nom, très très rarement, d'un intérêt particulier, hein, mais vraiment du point de vue d'un droit, je crois, à la dignité en ce moment. Hein. C'est Michael Fessel qui dit qu'en ce moment, on réclame l'évidence, en fait, c'est-à-dire hein, ce sans quoi on ne peut pas mener une vie. C'est-à-dire un travail, un logement, un accès à l'éducation et un accès aux soins, et que tous ces éléments de contre-pouvoir, là je pense qu'ils sont la preuve de l'impossibilité d'un discours fataliste, puisque déjà en acte, ils empêchent toute tentative de destitution complète d'un droit du peuple à revendiquer le droit de disposer de lui-même, enfin... Voilà.
L'émission est presque terminée. Non, c'est vrai que le projet, l'éducation, enfin, ça me semble important de terminer là-dessus, comme l'a fait Monique. Puis c'est vrai que déconstruire la croyance au fatalisme, c'est vrai que peut-être, c'est vrai que le débat politique est souvent orienté autour de notions comme le déclinisme, le pessimisme, ou l'optimisme d'ailleurs, ou le fatalisme, etc. Déjà montrer qu'en soi, ce sont des croyances, mais ces croyances peuvent orienter l'action, et peut-être qu'il faut choisir celles qui orientent l'action de la manière la plus positive et la plus motivée. Parce que le fatalisme, quand même, ça implique l'inaction. Et c'est vrai que, on est dans une époque de mondialisation. On voit bien que les enjeux se jouent à une très grande échelle. L'économie, l'environnement, les migrations. Et on peut comprendre que certaines personnes aient l'impression que parler comme ça, de politique à toute petite échelle, ça ne sert pas à grand-chose. Mais comme on l'a dit depuis le début de cette émission, la démocratie, elle commence là, elle se nourrit là. Il y a une continuité, en fait, entre le débat en famille, le débat entre amis, le débat avec les philosophes publics. Et puis, ce qui va se jouer aussi à un niveau plus institutionnel. Je ne sais pas si on prend un exemple parmi d'autres, le poids des lobbies, par exemple, dans les politiques aujourd'hui, en Europe notamment, le poids des lobbies, il peut être contrebalancé par des initiatives citoyennes, et effectivement, et ça le fait, et ça marche, mais encore faut-il se mobiliser et ne pas céder à ce fatalisme. Voilà, donc ce sera peut-être le dernier mot, et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions.
Merci.
Merci, et à bientôt, peut-être. Aux roues de la philosophie au dimanche de la Canebière.
Et peut-être aussi juste donc dire que la démocratie, c'est vraiment un acte et une activité et qu'elle est à continuer et que à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.